arrivé par l'atelier en bas et c'était tout de suite, pourquoi voir, plein de questions qui viennent.
L'autre, c'était plus dégagé. Puis avec deux ateliers, on pouvait beaucoup dégager. C'est-à-dire qu'on pouvait voir des pièces, quoi, tu vois.
Ouais. C'est vrai.
Puis suivant ce que je faisais, je l'installais à chaque fois de manière différente. Tu vois,
tu pouvais jouer facilement entre les deux espaces dégager l'un pour installer dans l'autre, etc.
Ça, c'était agréable.
Ça, c'était bien.
Ouais. C'est agréable. Ça, puis ça permet à chaque fois que tu as un travail qui change, tu commences un nouveau boulot, je me rends compte qu'à chaque fois, enfin moi, en tous les cas, je faisais comme ça, je réaménage l'atelier de manière totalement différente. Alors c'est peut-être la pratique de l'installation, de choses comme ça, c'est une source d'inspiration très grande.
C'est lié, oui, bien sûr.
Ouais. Oui. Parce que l'installation, elle est déjà en gestation dans l'atelier.
Elle est déjà en gestation dans l'atelier, tu penses par rapport à l'espace de l'atelier. Et puis il y a une esthétique particulière, parce qu'il y a une histoire, il y a des pièces différentes, il y a des matériaux, des objets que tu gardes, des choses comme ça, tout ça, ça participe du travail, en fait.
Ouais. Tu disais un truc intéressant quand même, c'est que... en fait, peut-être que plus la sculpture, ce qui est au début, dans ta façon d'aborder les choses, c'est l'installation, et qu'en fait tout ça, ça naît dans l'atelier, parce que les pièces sont en rapport, les travaux émergent dans l'atelier, dans un certain espace, et que tout cet espace de l'atelier, en fait, c'est lui qui amène cette logique qui devient ensuite la logique de l'installation dans l'exposition. Ça, c'est assez particulier.
Sauf dans mes derniers travaux où je réalise les pièces sur place.
Oui, oui.
Qui est une façon de... Enfin, pour moi, c'est une façon différente de poser la question de l'installation et du travail in situ, avec les pièces qui sont détruites à la fin, qui disparaissent.
Oui.
C'est tout le travail que j'ai fait à propos des destructions annoncées.
C'est ça, c'est ce travail que tu appelles destruction.
Qui sont pensés dans l'atelier. Donc l'atelier, c'est un endroit où je dessine, où je fais des maquettes. Et ensuite, les pièces sont réalisées sur place, en fonction du lieu.
Oui, c'est vrai que là, la logique est différente.
Et donc, cette idée de destruction aussi est liée justement aussi à la question quoi faire des œuvres, après, qui se pose... Pendant d'autant plus fort un artiste de mon âge où là on se dit mais qu'est-ce que va devenir mon œuvre, je vais emmerder ma fille après avec ça, je veux pas. Je commence à acheter des trucs, à essayer de voir, à faire des dons à des endroits où j'ai des œuvres dans des collections, des choses comme ça, mais et puis voilà, et puis après le reste, je signerai un papier comme quoi elle peut tout foutre à la poubelle. Mais c'est en même temps c'est dramatique. Enfin, je ne le vis pas de manière dramatique, c'est-à-dire j'essaye de faire de l'art avec ça. C'est-à-dire j'essaye de donner une réponse artistique à une situation qui est intolérable, quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette société qui contraint ces artistes à disparaître, à détruire leurs œuvres pour 80-90% quoi, de la production artistique. Pour moi, ça devient un élément de réflexion dans mon travail et j'essaye d'y répondre artistiquement. Je veux pas en faire un truc mortifère ou
quoi. Non, au contraire, parce que c'est vrai que on rentre tout de suite dans du dur là et dans des questions assez lourdes.
Ouais.
Moi, j'ai pas vu l'exposition au FRAC dont on a commencé à parler là, qui s'appelait Destruction annoncée. Je sais plus quel numéro.
C'était numéro 8 ou 9, je sais plus.
Voilà. 8. Et qui, au contraire, d'un truc mortifère, finalement, semble quelque chose de très débordant productif, quoi. Ouais. Et même si à la fin il reste rien de concret ou pas de résultat, quelque chose qu'on pourrait appeler un résultat, il y a beaucoup à voir, quoi, quand même. C'est au cours de ce processus, il y a beaucoup à voir.
Par rapport à rester rien, il y a la performance qui s'est greffée dessus, quoi. Donc ça fonctionne un peu comme une performance du point de vue de la disparition de l'œuvre. Et ça pose la question du spectacle de l'art, quoi, de la mise en scène de l'art, quoi, un petit peu de ce point de vue-là.
Oui, oui, oui.
Et dans l'histoire, ça a existé, ça. Je me suis intéressé à ça. Notamment la question de la destruction des œuvres ou des bâtiments comme spectacle, au 15e, 16e siècle, 17e siècle. Il y a eu une exposition là-dessus qui était très intéressante à Paris.
L'esthétique des ruines
aussi. Oui, l'esthétique des ruines, on parlait romantisme. Moi, la fascination
c'est plus
pour les ruines.
Ce dont tu parles, ça remonte un peu encore avant et on n'est pas dans l'esthétique romantique
donc,
de la ruine.
Donc, je me rends compte qu'il y a une histoire aussi de ça. Moi, ça me renvoie directement. C'est-à-dire que je me démarque, par exemple, de la conception romantique de ça qui est là-dessus, parce que ça me renvoie à l'actualité. Le romantisme fonctionne beaucoup plus sur une espèce de nostalgie du passé. Et là, moi, ça me renvoie directement de manière violente à l'actualité, complètement.
C'est
vrai. Ce qui se passe dans le monde, à tout ça. Voilà.
À des destructions actuelles.
C'est vraiment la question, à ce moment-là, du présent, de la finitude.
Oui, tout à fait. Ouais. Et les raisons sont multiples. Bon, y a ça, mon problème personnel, mais je me rends compte que c'est un problème général, parce que quand j'en discute avec les artistes, on n'en discute pas trop de ça. Qu'est-ce que vont devenir mes œuvres? Je m'aperçois qu'il y en a plein d'artistes qui sont inquiets avec ça et qui ont détruit des œuvres et qui ne savent pas quoi en faire, etc. Il y a un vrai problème, il y a un vrai truc. On commence à se poser des problèmes. Je suis en train de lire une revue super, très intéressante.
C'est une revue québécoise qui traite de la question de la destruction dans l'art, justement. C'est tombé comme ça, je suis tombé là-dessus, j'ai dit merde, alors c'est des copains au Québec qui m'ont dit, tu devrais regarder ça, ça vient de sortir. Enfin là, ça date de plusieurs mois déjà. Et qui traite de ça, du point de vue idéologique, du point de vue esthétique, ça produit, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'artistes qui ont réalisé sur cette esthétique de la destruction.
Oui.
Notamment des sculpteurs, essentiellement.
Mais c'est vrai que c'est un thème très vaste, quoi. Et cette histoire de la destruction qui traverse le romantisme, qui traverse aussi des, comme tu le disais, des moments plus anciens et plus récents de l'histoire, de l'histoire de l'art.
Ça touche à notre condition, parce que par exemple, moi j'aime faire des grosses pièces. J'aime bien les petites pièces, voilà, j'en fais pas mal, mais je me sens à l'aise dans les grosses pièces. Et c'est des choses. Ces destructions, c'est des choses que je réalise vraiment pour mon plaisir. C'est gréant, on ne peut rien en faire de cette pièce-là. Au moins que quelqu'un me la commande et dit bon, moi ça reste dans un musée où ça reste comme ça, mais c'est pas possible. Je ne veux pas me priver de ce plaisir-là et de cette expérience-là. De reposer la question de l'architecture, par exemple, pour les sculpteurs, où il y a une tradition très, très forte qui reste malgré tout. Et je veux pas me préparer, mais après, une fois que c'est fait, ben voilà, on peut que les détruire. Donc ça fait des pièces éphémères. Il y a un bouquin, on a édité un bouquin qui s'appelle Destruction annoncée, qui a été édité par l'Artothèque de Caen et par le FRAC, et où je m'explique sur ces raisons de la destruction, sur les multiples raisons qui font qu'un artiste fait une chose plutôt qu'une autre, quoi. C'est jamais. On a tendance à réduire ça simplement à quelques mots, etc. Mais c'est hyper réducteur par rapport à la complexité d'une œuvre, ce qu'on peut en dire et comment on l'a fait, etc. C'est jamais dans la logique dans laquelle on l'explique, ou la critique peut l'expliquer de manière rationnelle. C'est jamais comme ça que ça se passe.
On tâtonne avec des approches et des explications,
après on essaye de donner un ordre chronologique, mais c'est pas cet ordre-là qui fait l'œuvre, fait.
C'est des tentatives.
Puis quelquefois, il y a des choses qui viennent, qui sont à des kilomètres de la pratique de l'art et qui sont pas forcément perceptibles dans le travail, mais qui sont importantes dans les décisions qui sont prises souvent. Et enfin, moi, je m'intéresse à tout ça, à tous ces problèmes-là. Donc, ça fait quelque chose d'un peu chaotique.
Et est-ce que cette destruction, ce chaos, quoi, que tu crées, et c'est pas aussi une manière de réinterroger ton propre travail, de l'utiliser aussi comme un moteur pour revenir sur les choses, pour se réapproprier un petit peu
Oui, certainement. Dans la mesure où il y a une remise en question, l'œuvre disparaît, elle est détruite, voilà. Et j'en refais une autre, donc j'ai fait une série, à chaque fois elles sont différentes, quoi. Je voudrais aller jusqu'au bout de ce truc-là. J'ai quelques projets encore que je voudrais réaliser, donc je cherche des espaces pour pouvoir le faire.
Parce que je pense à un artiste à lequel tu me fais penser, c'est pas sur le plan formel, mais justement dans cette façon de procéder, et puis aussi dans l'aspect joueur que tu as dans ton travail, à Gazerovski, qui reconstruisait un peu son travail, qui à un moment donné a tout rechangé, tout réorganisé, tout, et qui tout le temps était joueur
Oui, tout à fait. Non, je suis d'accord avec ça. Bah, d'autant plus que mon travail, si je regarde l'ensemble de mon travail, il est assez éclectique, quoi.
Voilà.
Il y a... c'est-à-dire que je me rapproche plus de Picabia que de Duchamp, d'une certaine façon, dans la conception de l'art, dans la liberté qu'il y a par rapport dans le fond, on a toute l'histoire à notre disposition, l'histoire de l'art, et on peut faire ce qu'on veut, quoi. Pour moi, la question de l'art contemporain, pour moi, c'est ça. Je veux dire qu'on peut s'accaparer toute l'histoire.
Oui.
Et que souvent, on a de manière un peu réduite, un peu médiocre avec les 10 dernières années ou avec voilà. Donc alors qu'on a
oui ou avec une espèce de quoi. Avec un peu de comme ouais. ça sans oser trop y toucher avec
ouais, ouais, ouais.
Quand, trop quand, de révérence pas, quoi, ou trop de précautions.
Bon, il y a quelques artistes qui osent et ils y vont carrément, quoi. Il y a pas de mais dans les arts plastiques ça reste encore quand même un peu masquin, quoi, par rapport à l'histoire.
Alors c'est vrai qu'on a commencé à aborder l'histoire de la destruction sous un angle, on a parlé de l'actualité, de questions un peu lourdes et tragiques, et en fait, enfin moi quand je pense à la destruction, je pense aussi à quelque chose au contraire, quoi, comme une espèce de jouissance très, très brute, quoi, et à quelque chose d'enfantin, en fait, et au contraire... de quelque chose qui... La destruction, c'est pas seulement quelque chose qui enlève, mais c'est quelque chose qui crée du jeu et qui crée du récit et qui crée des possibilités de quelque chose d'autre. Et enfin, c'est quelque chose de très fertile, peut-être, quoi. Oui. Évidemment, il y a aussi ce truc qui est plus grave, quoi.
Ouais.
Mais enfin, c'est pas une chose morbide, quoi.
Non, moi je le vois pas comme ça, oui. D'abord parce que c'est avant tout c'est bon plaisir de le faire.
Oui, il y a un revendique immense plaisir absolument, de détruire. Quoi.
Et la destruction, c'est en fait, moi je l'envisage comme une façon de reconstruire quelque chose. C'est pas une destruction, voilà, casser les trucs, simplement le plaisir de casser. Encore que dans des performances, j'ai cassé des piles d'assiettes et tout, c'est un plaisir incroyable. J'avais un 500 assiettes ou je sais plus quoi. Mais là, pour moi, notamment celle du frac, où en fait j'ai recomposé l'œuvre, la pièce, complètement, qui était en ruine, mais c'était l'idée, je l'ai fait comme un travail, je ne l'ai pas fait en fait. Il y avait quelques étudiants qui m'ont assisté dans le truc, et je leur ai dit, on recompose l'œuvre, on travaille, on ne fait pas une performance, on continue le travail. Parce que le travail s'est fait, les gens pouvaient venir pendant la durée de la réalisation de l'œuvre, donc il y avait un côté un peu spectacle, les gens revenaient le lendemain pour voir comment ça avait avancé, et puis il y avait chez eux quelquefois, chez certains, un côté un peu sadique en disant, quand est-ce que vous détruisez, j'aimerais bien voir, quoi. On sentait quand même, j'avais envie, et ils disaient, merde, un travail comme ça, le détruire, c'est dommage, quoi, parce que pour moi ça avait d'autant plus de sens que le travail est conséquent aussi.
Ça se voit, ça s'impressionne, voilà. Impressionnant d'ailleurs, parce que c'est quand même un travail...
C'était un gros boulot de modelage, notamment de terre de construction.
C'est bien en soi, travail. Quoi.
Oui,
c'est
oui.
Une pièce,
ah oui, j'aurais aimé la garder, quoi,
oui,
en fait.
Voilà,
il fallait détruire, donc je suis allé jusqu'au bout du travail. Et jusqu'au bout, c'était le travail. On a dit, on fait ça dans la foulée. C'est-à-dire qu'on fait la pièce et on continue à travailler en commençant à défaire ce qu'on a fait, quoi, en fait. Et on la recompose. Alors, comme c'est de la terre et tout, ça tenait pas, ça cassait. Etc. Et donc, ça donne un côté un peu bizarre, un peu comique, mais voilà. Et en fait, j'ai recomposé la pièce. Voilà. J'ai recomposé une autre œuvre avec. Et la suivante sera. Il y en a une autre qui va découler de ça après, j'espère.
Voilà. Et est-ce que tu gardes quand même quelque chose? C'est tout de suite la question qui me vient. Est-ce que tu gardes, je sais pas, quelque chose qui serait comme des débris, des restes, des...
Non, alors justement, j'étais convaincu à ça avec le public. Alors, bon, il y a une vidéo,
hein,
ça, bon, c'est filmé. Mais j'étais étonné dans plusieurs que j'ai réalisées, une fois que c'était cassé, dont certaines que j'ai cassées de manière assez violente, mais là j'ai arrêté, la notion de travail m'intéresse plus, de reconstruire quelque chose. Donc un travail, c'est pas juste filer des coups de masse sur une sculpture, ça ne me plaît pas trop. Quoi. Et là, quand c'était cassé, les gens se sont... Bon, c'était fini, la pièce était finie, et les gens se sont précipités pour ramasser des morceaux. Mais celle du frac, je voulais pas que ça se passe, ça, pour empêcher. Donc on avait construit avec les étudiants des espèces de caisses qui faisaient partie de la sculpture, un peu bricolées. Et je dis, on va faire en sorte que, quand on a fini, le truc est en place, tout de suite, on amène les caisses et on commence à mettre la terre dedans, dans les caisses. Parce qu'eux, ils la récupéraient, je leur donnais la terre après. De manière à ce que les gens ne se précipitent pas dessus, quoi.
Parce que ça s'est produit plusieurs fois, ça.
Oui, 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 ça s'est produit plusieurs fois.
C'est vraiment quelque chose...
C'est incroyable. Et donc, des morceaux de terre, des fragments comme ça. Alors, il y en a qui sont partis avec, il y en a qui ont récupéré... Il y en a une que j'ai faite avec les têtes, comme ça. Donc, j'avais amené les moules et on avait estampé... donc, il y en avait plein, il y en avait beaucoup. Il y avait des étudiants qui m'avaient aidé pour estamper les terres dedans. Et j'avais fait une espèce de très grande sculpture comme ça, de 3 mètres de haut en terre, qu'on avait montée. Et puis, à la fin, j'ai recomposé, les têtes étaient installées ailleurs, dans un autre endroit. Donc j'avais construit une table géante comme ça, qui faisait 9 mètres de long sur 4 mètres de large, comme ça, en bois. Et la sculpture était sur un bout de la table. Et de l'autre côté, il y avait une espèce de tissu comme en terre que j'avais fait, comme si le tissu était un torchon qui était posé sur l'angle de la table, comme ça. J'en fais un plâtre, mais là, j'avais fait une très très, très grande en terre, comme ça. Et donc, il y a une performance de... Enfin, oui, là, c'était un peu un côté performé, un peu, mais très simple. Hein. Donc, il y avait les étudiants qui ont fait une chaîne pour porter toutes les terres, comme ça. J'avais construit une autre table que je mettais sur la table, comme ça, assez grande, et j'avais installé toutes les terres dessus, comme ça, très grande. Et à un moment donné, de manière surprise, tout le monde a été surpris, parce que j'ai attrapé, je ne sais pas comment j'ai fait d'ailleurs, parce que je ne suis pas très particulièrement costaud, mais je ne sais pas, il y a une espèce de truc, j'ai renversé la table en fait, mais brutalement, il y a une vidéo de ça. Et les gens étaient surpris, ils ne s'attendaient pas à ça, quoi. Il dit plaf comme ça, il s'est tombé, c'était hyper violent le truc, ressenti. Mais tout était tombé et il y a des gens donc qui sont montés sur la table. C'est on voit dans la vidéo, enfin peut-être pas, c'est un extrait peut-être que tu as vu. Je sais pas si elle était en entier. Parce que la vidéo en entier. Après les gens, j'ai remercié, c'est terminé, j'ai remercié bêtement les gens. Et d'être présent. Et donc, les gens, je suis descendu de la table et les gens sont montés sur la table pour récupérer les trucs des têtes. Il y en a qui sont partis, il y avait une tête qui n'était pas cassée, qui l'ont repris, se sont disputés, certains, pour prendre. Moi, je regardais ça, c'était filmé.
Ah oui, ça.
Ah oui, oui, non, c'était étonnant, quoi. Ils sont partis avec des tas de trucs, tu vois. Alors, il y avait des gamins, bon, les gamins, je comprends, mais des adultes, quand même. C'est drôle. Et donc, j'ai refusé de signer les trucs.
Incroyable.
Alors donc pour moi ça fait partie, c'est-à-dire que je l'intègre après au travail, donc oui. Je sais qu'il peut y avoir cette réaction là.
Ça fait partie.
Et pourtant au frac je m'attendais pas, parce que là il y avait un public, là où je l'avais fait c'était à Beauvais, il y avait un public qui n'était pas forcément averti des choses de l'art, etc. Donc je pourrais comprendre à la limite qu'il y ait ce genre de truc, voilà. Mais
finalement c'est pareil. Ce rapport au public, c'est cette idée, parce que c'est un travail qui pourrait éventuellement exister sans une performance,
ouais,
possiblement.
Bien sûr, ouais.
Donc pourquoi ce choix, à un moment donné, de faire la performance?
D'intégrer le public, son regard en tous les cas au travail. Et alors là, moi je me suis... Alors il y a des choses dont au départ on fait des choses comme ça, on a l'intuition de faire une chose comme ça, qui est en même temps aussi une réponse, une façon de répondre aussi à l'institution, et ça fait partie aussi du travail, où on nous demande quand on expose dans des endroits un peu officiels, mais qu'est-ce que vous faites pour les enfants des écoles, etc. Et moi je leur dis, enfin j'ai trouvé cette ruse, pour passer en leur disant, écoutez, moi je ne suis pas animateur, ce n'est pas mon boulot, c'est un vrai travail, c'est pas le boulot. Je peux participer à un travail d'animation, mais je ne suis pas animateur, c'est pas mon travail. Voilà. Donc, mais par contre, si vous voulez, les gens qui veulent, je les prends comme assistants. Pour faire leur... Donc ça a commencé comme ça, en fait. Et comme quoi, on réagit à des choses comme ça, qui sont nos conditions de travail, dans lesquelles, dès lors qu'on va exposer dans un lieu officiel, on va nous demander ça, quoi. D'expliquer aux petits-enfants, de faire des trucs comme ça. Bon, je dis, moi, je veux bien expliquer mon travail aux gens comme ça, mais je ne veux pas faire ça dans un cadre d'animation. Et puis, je me suis aperçu que dans la pratique, c'est vachement intéressant, parce que on est amené à dire des choses complètement différentes aux gens quand on est dans un processus de travail, quand on bosse avec eux. Et d'abord, ils se rendent compte ce que c'est que le boulot. C'est par exemple de déplacer 2 tonnes de terre. Voilà, ça fait partie du travail. Et puis, quand en cours de route, on change d'idée, puis on va modifier le truc, on va faire autre chose, quoi. Donc, on est obligé. Voilà, on dit des choses qu'on ne dirait pas dans une conférence sur le travail. Et tout d'un coup, il y a une vraie relation qui s'établit comme ça. Et moi, ça m'a intéressé, ça, ce rapport, parce que ça m'aidait à réfléchir aussi sur mon travail. Dans le processus de travail. Après, je me suis rendu compte, alors ça, c'est aussi la relation qu'il y a avec la performance, parce qu'on n'est pas que sculpteur, on est artiste, comme dirait Manet, voilà, qui nous autorise à faire de la peinture sans être peintre, à faire, etc. Donc, bon, moi, je suis sculpteur, j'aime bien me dire que je suis sculpteur. Mmh. En même temps, il y a la pratique de la performance, de la photo, de la vidéo, du dessin, d'écrire des romans, etc. Ça fait partie, le récit fait partie de mon travail.
J'ai l'impression que dans ton travail, chaque chose renvoie à une autre. Là, c'est quand même très très présent dans ce que tu fais. On a vraiment l'impression que une chose amène à l'autre, qui amène à l'autre, qui amène à une chose. Donc, ce moment de performance, finalement, il renvoie à la case départ.
Il renvoie du récit. Il renvoie à des tas de choses comme ça. C'est-à-dire que j'utilise, comme la plupart des artistes maintenant, plusieurs moyens d'expression. Et ce que je peux pas faire avec un moyen, je le fais avec l'autre, quoi. La notion du récit dans une sculpture, ça n'a rien à voir avec celle du récit quand on écrit, quoi. Voilà. Et je peux faire avec l'écriture des choses que je ne peux pas faire avec, et inversement.
D'accord.
Donc avec la vidéo, j'en fais plus trop maintenant, mais sinon c'est qu'il y a des prises quand je fais ce genre d'action. Mais avant, je faisais des vidéos qui étaient des petits récits. En fait, pour moi, la vidéo se trouvait un peu entre les deux, entre l'écriture et mon travail de sculpteur. Oui.
Alors moi, du coup, depuis quelques minutes, là, j'ai envie d'avoir des éléments un peu de chronologie, c'est-à-dire je me demande, par exemple, cette histoire de destruction, de mise en scène de la destruction, la première fois que tu l'as travaillé en tant que tel, c'était quand ?
Alors, historiquement, parce qu'après, quand on repense à comment ce travail est venu, on remonte très loin dans le temps.
Oui.
Y compris quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts, j'ai failli être enseveli sous une tonne de terre, sous un bas-relief, et que j'avais mal accroché, parce qu'à l'époque, on faisait dans les études de sculpture, on faisait du nu et on faisait du bas-relief, d'autres trucs. Bon, mais j'aimais bien faire ça, c'était pas mal. Et donc, on avait des clés comme ça sur le mur pour faire des bas-reliefs. Et puis il fallait bien les fixer avec des croisillons de bois, des trucs comme ça. Et puis j'avais moulé ce truc-là en plusieurs parties pour pouvoir le tirer en plâtre après. Et puis j'avais la manie de travailler. J'ai toujours d'ailleurs de faire des trucs seul, ou même quand j'ai des assistants, je vais le travailler à leur place et tout le monde. Parce que j'aime faire ça, quoi. C'est pas compliqué. Alors, j'aime le faire. Alors.
C'est pas l'artiste
qui l'aime. Et là, il a failli, deux, trois fois, m'arriver des accidents comme ça. Et là, je montais sur des caisses d'atelier comme ça pour démouler, quoi, en faisant couler de l'eau, en tirant sur les moules, etc. Et tout d'un coup, j'avais du mal à faire les papillons pour accrocher la terre. Et le truc est parti comme ça. Je l'ai senti, heureusement, j'ai juste eu le temps de sauter sur la terre, de sauter par terre sur des caisses comme
ça. Écarté.
La terre est tombée sur les caisses, elle les a écrasées comme ça, paf, comme ça. Les trucs avec le plâtre, les moules et la terre, il y avait je ne sais pas combien de poids là-dessus. Donc après, ça m'est revenu à l'esprit parce que c'est des choses inconsciemment, je crois, qui reviennent quand on travaille sur un thème. Il y a l'histoire qui se refait. Donc si on tire les ficelles, c'est marrant comment on arrive à retrouver puis à rajouter, donc à repenser différemment son travail. Après, quand j'ai commencé, la première, La première que je fais, c'est au Québec, je crois. Il faut que je retrouve les dates, alors c'est il y a assez longtemps.
La première destruction annoncée.
Ouais, je crois qu'elle a été la première, ça a été celle du Québec. J'ai fait dans le Nouveau-Brunswick où j'étais invité dans un événement sur la francophonie. Comme ça, on était deux sculpteurs de chaque pays francophone à être invités. Donc il y avait, pour la France, on était deux, il y avait la Belgique, il y avait enfin tous les pays francophones, il y avait les pays d'Afrique, etc. Et donc on était au bord d'un fleuve, comme ça, où il y avait un mascaret gigantesque, à cet endroit-là. Ça donnait dans la baie de Fundy, qui est une des baies, il y a des marées de 15 mètres, c'est les plus grandes marées, je crois, là. Donc quand l'océan s'engouffrait là-dedans, ça remontait sur tous les fleuves qui se donnaient sur la baie, comme ça, ça montait quasiment jusqu'à la source, quoi. Et là, donc, c'était une zone qui était régulièrement inondée par le mascaret, comme ça, à chaque fois. Et on a pu travailler là, Moi, j'avais une zone à peu près de 5000 m², comme ça, très grande. Et j'ai utilisé... Alors, c'était un endroit qui était protégé par les écolos. Donc, il y a une végétation particulière dessus, sur ce mascaret, et un sol qui était une espèce d'argile rouge, comme ça. D'abord, on ne pouvait pas trop marcher dedans, et puis il ne fallait pas trop abîmer les trucs. Donc, il m'avait donné deux assistants, des tronçonneuses et des plusieurs mètres cubes de bois. On s'est régalé à le faire. Sauf qu'on a été bouffés par les moustiques et par les maringouins. C'était au mois d'août, ça a été terrible. Et donc... on a commencé à construire des pontons, comme ça, qui avançaient dans l'eau, comme ça, au-dessus de l'eau. Donc, on plantait des piquets, on mettait des planches, on fixait des planches dessus, puis on avançait comme ça. C'est le travail qui m'a plu le plus, d'ailleurs, parce qu'on avançait pour aller dans des zones où on voulait aller, comme ça. Et j'ai réalisé des trucs qui disparaissaient avec la marée, avec cette espèce de boue, comme ça. Et avec des structures de bois qui étaient un peu comme j'ai fait après par la suite, mais complètement différentes. C'était des espèces de tables comme ça qui étaient sur l'eau, qui s'enfonçaient de manière instable dans la boue, comme ça, au fur et à mesure que ça montait. Et donc les trucs, ça a disparu comme ça régulièrement avec l'eau, plus d'autres qui restaient avec des plateformes comme ça où j'avais monté ce qu'il y avait en dessous, j'avais monté sur les tables comme ça. Et puis. La manifestation a été terminée et ça s'est resté en place. Et comme j'avais construit les parties en bois très solides, ils les ont laissées. Ça a passé l'hiver, là, comme ça. Alors les trucs se sont enfoncés. Il y en avait plein où j'avais mis des blocs de pierre dessus, j'avais mis de la terre. Enfin, j'avais fait tout un truc comme ça, toute une composition sur cette. Un peu à plat, comme ça. Et c'était resté comme ça. Et après, il y a la neige qui est venue dessus. Après, ils ont détruit à la fin de la neige. Ils ont fini de ne pas enlever parce que c'était réemporté. Enfin, il y en a certaines qui avaient été emportées parce que quand les glaces se prennent comme ça, après, au moment de la débâcle, il y a des moments où parce que ça bouge comme ça et ça peut être emporté dans le fleuve. Voilà.
Oui.
Donc, ce qui s'est produit pour certaines et d'autres. Alors, malheureusement, pendant l'hiver, ils ne m'ont pas pris les photos, ces camps-là.
C'est ce que j'allais te demander. J'ai des photos.
Non, j'ai pas vu après. Ils m'ont raconté, mais bon, voilà. Mais ça doit être la première. Et après, il y en a d'autres que j'ai fait, plus modestes. Il y en a une plus modeste au musée de la céramique à Sèvres. Comme ça, et là où j'avais réalisé une grande sculpture qui était une très grande poterie, comme ça, qui faisait 3,50 m de haut, comme ça, très très grande. Parce qu'ils avaient invité plusieurs artistes, des artistes qui utilisent la terre, des designers et des céramistes, donc dans cette exposition. Et moi, je leur avais proposé de réaliser une pièce en terre crue, voilà, comme ça, au milieu, dans le musée. Donc ils ont accepté, j'ai fait ça. Et puis à la fin, c'est resté exposé assez longtemps. Et à la fin, le dernier jour de l'exposition, j'ai détruite. Donc ils avaient ramoté tout le monde. Et j'ai cassé la pièce. Et quand je l'ai cassée, ils m'ont dit, c'est dommage, on aurait pu la cuire. Alors, j'ai dit, vous venez de ça maintenant. C'est une belle pièce, elle est... Parce que je l'ai fait comme ça, mais si ça peut rester, je suis content que ça reste aussi. Donc je fais voilà. Donc c'est plusieurs étapes comme ça. Dans Alors celles comme très grandes comme le frac ou des trucs comme ça, je sais que de toute façon il faut les démonter, il faut les détruire, ça peut pas rester. Et là j'ai cassé la pièce, j'ai raconté une longue histoire là-dessus. Donc j'avais préparé un texte, mais je racontais une histoire. Quoi. Et après, il y a une vidéo de ça, assez amusante, parce que il y a quelqu'un qui criait quand je commençais à casser. Non, 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 il ne voulait pas. Il a interpellé le directeur du musée en disant « Non, non, il ne faut pas le casser. » Bon, puisque je l'avais monté en tronçon, en morceaux, on aurait pu le... Elle aurait pu être cuite, en effet.
Oui. Mais moi, ce que je me demande, alors... Et quand tu racontes cette expérience du travail dans cette plaine alluviale, là où, ouais, dans cet endroit où la marée reflue, et où tu as fait cette installation et ces constructions, et ça amène la question du paysage.
Ouais.
Et je me demandais si c'était quelque chose qui avait eu des répercussions ou s'était retrouvé dans ton travail à d'autres moments. Parce que quand tu parles de destruction, finalement, dans les autres expériences que tu as menées, on a affaire à quelque chose d'assez différent quand il s'agit d'une destruction que tu orchestres toi-même, ou alors quand il s'agit de celle à laquelle t'assistes de manière un peu passive, parce que c'est quelque chose qui te dépasse, les éléments s'en mêlent, le paysage s'en mêle, et où t'es renvoyé soit t'es confronté à quelque chose d'un peu plus vaste sur lequel t'as pas vraiment prise, soit tu es renvoyé en tout cas à une position de spectateur et un peu passive, et ça engage des choses différentes, et c'est un truc que je trouve intéressant. Et je me demande si ça revient ensuite à d'autres moments.
Oui, c'est vrai. Quand j'ai, je cherche des occasions comme ça. Alors, j'ai eu une autre histoire qui est en Afrique, où j'étais il y a 2 ans, je sais plus à peu près, par le Centre culturel français et puis par le Goethe-Institut là-bas. Ils ont invité une artiste allemande et puis un artiste français pour aller travailler avec des artistes burkinabés à Ouagadougou. Donc, j'ai accepté d'y aller. J'étais curieux de voir ça. Et donc, j'ai réalisé un truc. Alors, d'abord, j'ai été extrêmement choqué par les conditions de vie, de ce qui s'est passé. Déjà, ça a changé beaucoup de choses dans ma façon de voir de ce que je voulais faire. Je n'avais pas d'idée a priori. Sinon, ça m'intéressait de travailler avec des artistes africains. Donc quand je me suis rendu compte de ça, parce que les problèmes qu'ils ont, nous on a des problèmes comme ça à se poser, artistiques, de gagner de l'argent pour pouvoir faire de l'art, etc. Mais eux, les problèmes qu'ils ont, c'est qu'est-ce qu'on va manger ce soir. C'est ça le problème. Voilà. Donc ça change vraiment beaucoup de choses. Et dans un climat de misère épouvantable. Et j'ai rencontré des gens formidables comme ça. Et j'ai eu, comme j'étais vraiment avec eux... J'ai pu voir autre chose. Et puis à un moment donné, quelles que soient les cultures, quand on est artiste, il y a un moment où on est sur le même plan. J'ai été vraiment très, très touché par ça. Donc on a eu un projet, on était, je ne sais plus, il y avait une vingtaine d'artistes, comme ça on était. Et on a travaillé, on a choisi un lieu d'abord travailler en extérieur. Et d'ailleurs, il m'expliquait qu'il y en a qui faisaient des trucs dans les quartiers, ils avaient les mêmes problèmes que nous, on peut avoir avec l'art contemporain, c'est quand on va faire des trucs dans le fin fond de la Creuse ou je sais pas quoi. Voilà. Le même type de questions, dans un contexte différent, bien sûr. Et on disait, qu'est-ce que c'est que ces conneries, voilà. Parce que les artistes contemporains, ils font de l'art contemporain, mais à l'africain, dans les conditions africaines, quoi. C'est-à-dire qu'en récupérant les matériaux dans les poubelles, n'importe quoi, avec... j'ai vu certains des trucs assez bien, quoi, vraiment. Donc moi j'ai bossé. Alors finalement on a choisi un lieu qui est un terrier au centre de la ville, un terrier gigantesque, où ils creusent pour faire la terre, pour faire les briques, pour construire les maisons. Et c'est des femmes qui travaillent. Souvent c'est des femmes seules avec des gamins qui travaillent là-dedans, avec les gamins sur le dos et tout, qui ramassent la terre, qui font les briques et tout. C'est un travail épouvantable là-dedans. Et nous, on a travaillé là-dedans. Moi, tout l'argent, j'ai acheté des... Parce qu'ils n'avaient rien, ils n'avaient pas de tout, les copains là, qui étaient là. Ils n'avaient pas... Moi, j'avais une bourse pour la France, c'était rien du tout, mais pour là-bas, c'était une fortune. Donc, J'ai acheté des outils et tout, parce qu'ils n'avaient rien, puis je leur ai filé, quoi. Enfin, moi, j'en faisais rien. J'en avais besoin pour travailler, puis j'ai dit, mais bon, on le prenait. Et puis, j'ai acheté la terre aux femmes pour faire des trucs. Et j'ai construit... parce qu'à un moment donné, aussi, on a fait une œuvre commune, et puis chacun une œuvre individuelle. Et en fait, je me suis dit, ben, je vais travailler comme eux. Je vais travailler comme eux, quoi. Je vais pas faire un... Et donc, j'ai fait une œuvre sans vouloir, j'ai fait une œuvre... africaine.
Oui, c'était l'objet.
J'ai construit, alors j'ai acheté aux gens des espèces de grandes perches d'eucalyptus qui font 4 mètres, 5 mètres de long, comme ça, qu'ils utilisent pour tout, pour construire, pour faire du charbon de bois, pour faire je sais pas quoi. Donc j'en avais acheté un gros stock, et j'ai construit, j'ai fait une construction, en fait, comme ça, une espèce de truc avec des étages et... Et puis, cet endroit, il servait aussi de poubelle, tout le les gens jetaient le truc. Alors. Et j'ai récupéré, en fait après, j'ai ramassé toutes les saloperies qu'il y avait, j'ai mis dans des grands sacs, comme ça, j'ai posé ça sur les plateformes, comme ça. Et donc, ça a travaillé un certain temps, et puis après, j'avais dit aux gens, parce que les matériaux, c'est précieux, les bidons en plastique, tous ces machins-là, ils récupèrent pour l'eau, pour plein de trucs. Et je dis, bah, après, ils me disent, mais qu'est-ce que vous faites? Je dis, bah, vous les prenez, vous les récupérez. Le mec qui m'avait vendu les bois, je dis, bah, vous pouvez les reprendre après, si vous